Radio Okapi. Okapi.
Voici les titres de ce journal. Le calme est revenu à Kichanga après la colère des policiers qui réagissaient à l'assassinat par des inconnus des deux de leurs compagnons. Les autorités du Nord Kivu invitent les habitants de cette collectivité à retourner chez eux. Les évêques catholiques prennent position sur un problème qui n'existe pas. C'est la réponse du porte-parole du gouvernement à la dernière déclaration de prélat qui s'oppose à la révision de l'article 220 de la Constitution. Punis pour avoir sollicité une amélioration de leurs indemnités de fin de carrière, en tout cas c'est l'idée que se font les anciens directeurs retraités de l'administration publique en 2009 et 2010 sur leur sort. Ils demandent l'intervention du chef de l'État pour une solution à leurs problèmes. Bonjour à tous, ce journal part du Nord Kivu. Les autorités provinciales appellent les habitants de Kichanga qui ont fui les incidents survenus dans la nuit de mercredi à jeudi à regagner leurs habitations. Kichanga est environ 80 km au sud-ouest de Goma. Deux policiers du groupe mobile d'intervention GMI en patrouille ont été tués par des hommes armés non identifiés. Des policiers en colère ont tiré des coups de feu en l'air toute la nuit, créant la panique et la psychose au sein de la population. Le vice-gouverneur qui a animé jeudi une réunion élargie de sécurité à Kichanga a rassuré la population que les enquêtes seront ouvertes pour tirer au clair cette situation. Feller Lutaichiroa l'a dit au micro de Gabriel Ouamenia.
C'est l'occasion d'appeler toute la population de Kichanga. Nous y sommes, nous sommes avec eux, nous sommes venus avec les partenaires de la MONUSCO, le comité provincial de sécurité. C'est pour apaiser la population. Il y a des éléments pour dissipation des munitions de guerre qui sont arrêtés et tout cela va être déféré devant la justice. Mais en même temps, nous venons de renforcer le commandement avec le commandement de l'armée pour que toute la population soit appelée à revenir dans la cité et reprendre les activités normales. Donc voilà, et à part cela, il y a des mesures judiciaires, administratives qui vont suivre pour renforcer la sécurité et la cohabitation ici à Kichanga.
Sécurité encore, le réseau réforme du secteur de la sécurité et de la justice plaide pour l'inscription de la loi portant programmation de la réforme de la police dans le budget 2015. Demande formulée hier jeudi à Kinshasa au cours d'un atelier d'information sur la police de proximité et la société civile. Une activité marquant la fin de l'appui de la mission de la police européenne EUPOL en RDC. Explication avec Emmanuel Elameji Wakabi.
Les deux chambres du Parlement, dont députés et sénateurs, sont appelés à faire de la loi portant programmation de la réforme de la police une des priorités de la session budgétaire en cours. Pour Emmanuel Kabengele-Kalonji, coordonnateur du réseau réforme du secteur de sécurité de la justice, les lois des finances relatives aux exercices budgétaires allant de 2014 à 2017 sont tenues de prendre en compte les besoins de cette loi évaluée à plus de 750 milliards de francs congolais. Le chef de mission EPOL en RDC, présent dans cet atelier, s'est dit fier du travail accompli par sa mission, mission qui arrive à son terme à la fin de ce mois de septembre. Jean-Paul Rikira revient ici sur le concept police de proximité.
Je voudrais rappeler ici que le concept de police de proximité développé en République démocratique du Congo est avant tout un concept de changement de mentalité et de changement de comportement du policier, mais aussi la transformation de l'environnement dans lequel il vit par l'instauration d'un partenariat avec la population.
Signalons qu'il a été aussi procédé ce jeudi à la publication du rapport de la participation de la société civile à la mise en œuvre de la police de proximité dans la commune de Kinshasa sur le projet du commissariat de référence de Kinshasa, Koreki.
Dans deux jours, les peuples du monde entier vont célébrer dans deux jours la journée internationale de la paix. Chaque année, à cette occasion, l'Organisation des Nations Unies appelle à un cessez-le-feu mondial. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, la paix et la sécurité sont indispensables au progrès social et au développement durable. Mais qu'est-ce que la paix pour la population congolaise? On écoute ces réponses de quelques Kinois au micro de Michel Kifindangoy.
La paix signifie une sérénité, une quiétude, là où il n'y a pas de disputes, là où il n'y a pas de guerre, là où il y a une harmonie absolue. Vous pouvez vivre dans un milieu où il n'y a pas de crépitement de balles, mais les gens ne s'entendent pas. C'est qu'il n'y a pas de paix.
Je peux dire que je suis dans la paix, c'est quand, premièrement, je dors convenablement. C'est-à-dire, il n'y a pas de bruit tout autour de moi, dans les quartiers, dans la ville où je vis, et généralement dans les pays. Et puis chaque jour, j'ai mon gagne-pain.
C'est vrai que notre pays est vraiment, vraiment en paix. Parce qu'à l'Est, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de viols, de violations et de morts.
La paix, je le prends à deux dimensions. Premièrement, lorsque mon pays ne jouit pas d'une paix, je trouve que cela affecte directement mon quotidien et mon social. De deux, je prends maintenant la paix au niveau individuel. Les conditions sociales dans lesquelles je vis, c'est un autre facteur de la paix.
Quand il n'y aura plus de guerre, de la famine, côté politique, il n'y aura plus de mésententes entre le gouvernement en place et l'opposition.
La paix, c'est absolument pour moi un état de quiétude totale.
Les évêques ont le droit d'émettre un point de vue sur les débats politiques, mais pas sur un problème qui n'existe pas. C'est la réplique du porte-parole du gouvernement à la lettre pastorale des évêques catholiques, lettre relative à la tentative révisionniste de l'article 220 de la Constitution. Lambert Mende en appelle à la tranquillité envers le chef de l'État qui ne doit pas, d'après lui, se livrer à la polémique entretenue autour de son mandat de 2 ans qui court encore. Le ministre de la Communication et des médias le disait hier jeudi au cours d'une conférence de presse tenue à son cabinet. Jeff Ngoy était.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites au sujet de la révision constitutionnelle en RDC. Mais ce que les prélats disent à travers leurs lettres est qualifié de pire par Lambert Mende qui leur fait deux reproches.
Ce que nous leur reprochons, c'est d'abord l'idée qu'on peut répondre à un problème qui n'est pas posé et nous doutons de leur bonne foi lorsqu'ils inventent une controverse autour d'une initiative autour de l'article 220 qui n'existe pas, en tout cas pas encore. Deuxièmement, c'est l'argument d'autorité. Que lorsqu'ils ont parlé, personne ne peut plus émettre un autre point de vue.
À la question de savoir pourquoi le chef de l'État lui-même ne se prononce pas sur ce débat, le ministre répond.
Le président de la République n'a pas été élu pour se livrer à une nouvelle campagne électorale après son élection, puisqu'on veut lui demander s'il va être candidat, mais il a été candidat, il a été élu. Laissez-le au moins assumer son mandat, c'est tout ce que nous demandons, il a encore 2 ans. Est-ce que c'est le moment? Nous disons non.
Le gouvernement note que, sur la question de la Constitution, les évêques affichent des positions variées et parfois contradictoires. Depuis leur dernière lettre pastorale de juin dernier.
Lors de sa conférence de presse, Lambert Mende a aussi annoncé une nouvelle vague de bénéficiaires de la loi d'amnistie. Cette 6e vague concerne 206 amnistiés. Ils proviennent de 12 groupes, dont une cinquantaine d'éléments ex-M23 et une quarantaine de FRPI Ituri. Les directeurs généraux et directeurs retraités de l'administration publique en 2009 et 2010 se disent abandonnés et sollicitent l'implication du chef de l'État pour que soient payées leurs indemnités de fin de carrière. Ces anciens fonctionnaires publics, dont le nombre serait plus de 6 000, regroupés au sein du collectif des directeurs retraités de l'administration publique, l'ont déclaré hier jeudi à Kinshasa à l'issue de leur assemblée générale. Ceux qui avaient accepté le forfait proposé par le gouvernement avait reçu 2 000 $ de frais de rapatriement, mais ceux qui avaient introduit le recours pour obtenir une amélioration attendent depuis plus de 4 ans la réponse à leur requête. Dans l'entretemps, la retraite s'est transformée, selon eux, en sanction punitive. André Mabita, ancien directeur au sport et loisirs et secrétaire général du collectif, est interrogé par Daniel Tambizoni.
Les secrétaires généraux à la retraite sont payés aujourd'hui comme pension mensuelle à 13 900 francs. Le directeur est payé à 13 438 francs. Alors que les 3 ministres du gouvernement en 2008 venaient de signer un texte conjoint dans lequel ils reconnaissaient le paiement de 46 000 francs aidés pour le secrétaire général mis à la retraite et 44 000 francs aidés pour le directeur. Nous ne comprenons pas comment de 46 000 francs prévus pourtant en 2008 et qu'en 2013 et 2014, l'on paye au secrétaire général 13 900 francs et au directeur 13 438 francs. Nous ne comprenons.
On ne vous a donné aucune explication par rapport à ça.
Jusqu'ici, monsieur le journaliste, ça fera 6 années que nous n'avons reçu aucune suite valable. C'est pour ça que nous constatons que cette retraite constitue pour nous une action punitive.
transport à Kinshasa, 105 membres de la PEVCO, Association des propriétaires des véhicules affectés au transport en commun, ont bénéficié hier jeudi des minibus Hyundai achetés par le gouvernement congolais pour les octroyer à crédit au privé en vue de résoudre de façon progressive et durable le problème de mobilité urbaine. C'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo lui-même qui a procédé à la remise des clés. Il s'agit d'un premier lot de bénéficiaires de 250 minibus commandés. Mais pourquoi seulement 105 bénéficiaires alors que le total de ces minibus est de 250, la réponse dans ce reportage d'Inonsa Olenga qui a assisté à la cérémonie.
Le cabinet comptable PricewaterhouseCoopers, recruté pour coordonner la convention cadre de partenariat entre les gouvernements et la PEVCO, déclare avoir réceptionné des 136 dossiers, mais seulement 105 ont été conformes aux 10 conditions d'éligibilité. Ces conditions, c'est notamment être transporteur et membre de la PEVCO avant le 30 juin 2014, payer un apport initial de 8 700 $, produire une attestation de résidence en cours de validité et produire la preuve minimale de solvabilité, un bien immeuble ou un compte en banque actif. Les candidats non sélectionnés n'ont pas à désespérer comme Constantin Yatala, auditeur des PricewaterhouseCoopers, le déclare.
Les transporteurs ont été individuellement contactés et invités chacun à se mettre en règle pour les documents manquants en vue de la validation de leur dossier dans un bref délai.
Le ministre des Transports et des Communications qui se réjouit de l'aboutissement de ces projets parle d'un changement dans la façon de transporter.
La vision du chef de l'État sous la coordination du Premier ministre, c'est que nous ayons une nouvelle génération de conducteurs au volant d'une nouvelle génération de véhicules et sur une nouvelle génération de routes.
Rappelons que pour ce projet dénommé Esprit de vie, le gouvernement congolais a déboursé plus de 14 millions de dollars américains pour acheter ces minibus qu'il accorde à crédit au privé.
Terminons par ce cri d'alarme de la Société Nationale d'Électricité. Le vol de câbles électriques est récurrent à Likasi. C'est un cri d'alarme du chef de division poste ligne haute tension de la SNEL Katanga, adressé hier aux autorités judiciaires. Selon l'ingénieur Dodongindu, plus de 1200 mètres de conducteurs en cuivre nu sur la ligne reliant Kolwezi à Fungurume ont été volés mercredi. La police dit avoir appréhendé un véhicule avec plus de 300 mètres de câbles sur les lieux du vol. Voilà, c'est journal est fini. Merci de l'avoir suivi.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.